Vous écoutez
RMC.
Lundi 22 juin.
L'info sur RMC.
3, Céline Kallmann est là pour les dernières infos. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Cinéma, nous voilà. Une reprise encadrée dès minuit dans certaines salles. Après 3 mois de fermeture, les spectateurs peuvent redécouvrir le plaisir du grand écran. Et puis, la rentrée, en principe pour tous les élèves jusqu'au collège aujourd'hui, avec des règles sanitaires allégées. Les policiers pris pour cible sur l'esplanade des Invalides à Paris. Cette nuit, fête de la musique gâchée. Reportage dans ce journal. Et puis, une nouvelle épreuve pour les proches de la petite Estelle Mouzin. Des fouilles vont être menées dans les Ardennes où Michel Fourniret a vécu. Les enquêteurs vont tenter de retrouver le corps de la fillette. Bienvenue à tous sur RMC. Comme pour la réouverture des coiffeurs, des restaurants, ce fut beaucoup d'émotions hier soir pour la première séance. Le rideau à minuit s'est levé dans plusieurs cinémas. Une reprise très attendue après 3 mois de fermeture due au Covid-19. Margot Bédé a pu assister pour RMC à la relance du cinéma L'Arvor à Rennes.
Après une demi-heure d'attente, plus que quelques mètres séparent Cassandre et ses amis de leur salle de cinéma, les jeunes femmes ne cachent pas leur excitation.
Réouverture des cinémas à minuit, c'est trop cool. J'allais au cinéma 2 fois par semaine, quoi. Ça a été vraiment long.
Les repères sont tout de même bousculés. Dans la salle, un fauteuil sépare chaque groupe de spectateurs. Malgré la distance, Bénédicte renoue avec les lieux.
La lumière qui va s'éteindre, le son qui va être fort, partager quelque chose avec d'autres gens, même si on ne les connaît pas.
2 heures plus tard, Adélaïde et Cassandre ressentent ravis.
Vu que c'était le retour, un petit peu, il y avait un côté assez familial, trop chouette.
Ouais.
Les gens rigolaient vraiment, franchement, c'était trop bien, j'ai trop aimé.
Et puis voilà, on avait un peu l'impression de faire une bonne action.
Oui, une bonne action indispensable pour le cinéma Arvor et son directeur Eric Gouzanet.
Notre équilibre est à 115 000, 120 000 entrées, ce qui était le cas l'an dernier. Donc là, on a commencé fort l'année, on était à 35 000 lors de l'arrêt le 14 mars. Donc 3 mois d'interruption, on est toujours à 35 000, hein. Le déficit va être assez important.
Il n'y a donc pas de temps à perdre. La prochaine séance ici a lieu cet après-midi à 14h.
Nous sommes le lundi 22 juin, il y a comme un air de rentrée des classes à 2 semaines des grandes vacances. Tous les écoliers et collégiens sont censés reprendre les cours grâce à un allègement du protocole sanitaire. Présence en classe obligatoire. Enfin, répondent les élèves qu'Alfred Orange a rencontrés pour RMC.
Privé d'école depuis mi-mars, Ulysse, élève en 4e, l'avoue.
J'aurais jamais cru qu'un jour l'école me manquerait. Donc en fait, là, je suis content de retourner à l'école. Ouais.
3 mois qu'il est enfermé chez lui, cette rentrée, c'est d'abord retrouver un cadre de vie.
On pourra plus se voir avec les potes, on reprendra notre rythme de vie.
À distance, difficile d'échanger correctement avec ses profs, Ulysse viendra donc en cours avec ses questions, notamment en maths.
Qui nous explique tout ce qu'on a fait pendant le confinement. Les maths, c'est quand même une matière où il faut avoir un visuel, une leçon, et on n'a rien.
Voir son fils reprendre le chemin du collège.
Et donc tu as musique.
Une libération pour Sophie, la maman qui a cumulé les fonctions.
Gérer l'école à la maison, c'est-à-dire prendre la casquette de maître ou maîtresse, dame de service, cantinière. Et on sort effectivement de ce tunnel soulagé.
Clore l'année scolaire est primordiale pour Denis Bertrand, directeur de l'école maternelle Darius Milhaud à Paris.
Les enfants ont besoin de se dire au revoir, de retrouver les locaux de l'école, leur classe, leur maîtresse, leur maître. Pour eux, c'est important de finir là-dessus avec les copains, les copines.
Les écoles fermeront officiellement le 4 juillet prochain.
C'est l'une des infos de la matinée. 10 enfants de djihadistes français qui étaient retenus dans des camps en Syrie ont été rapatriés en France cette nuit. Benjamin Smadja, c'est le ministère français des Affaires étrangères qui l'annonce ce matin.
Oui, la France a procédé au retour de ces 10 jeunes enfants mineurs. Il s'agit d'orphelins ou de cas humanitaires. Ils étaient retenus dans des camps du nord-est de la Syrie. On ne sait pas comment ils ont quitté la Syrie. On ne connaît pas leur lieu d'arrivée en France. Mais le Quai d'Orsay indique que ces enfants ont été remis aux autorités judiciaires françaises, qu'ils font désormais l'objet d'un suivi médical particulier et d'une prise en charge par les services sociaux. La France remercie l'administration kurde pour sa coopération dans ce nouveau rapatriement. En comptant ces 10 enfants, la France a donc ramené 28 enfants de Syrie depuis l'effondrement de l'État islamique en mars 2019. Selon le collectif Famille Unie, qui regroupe des proches de ces enfants, environ 300 enfants de djihadistes français sont retenus dans des camps du nord-est de la Syrie.
Benjamin Smadja, autre info de la nuit, ce sont les forces de l'ordre prises pour cible sur l'esplanade des Invalides à Paris. Des milliers de personnes s'y étaient rassemblées pour la fête de la musique, un rassemblement qui a donc dégénéré. Mahou Bekar-Granier.
Selon les témoins, c'est une simple bagarre qui aurait conduit les policiers à intervenir sur l'esplanade des Invalides, mais ce jeune homme reconnaît que la situation a rapidement dégénéré avec les forces de l'ordre.
On est venu passer une petite soirée tranquille, normal comme on fait tous les jours. On s'est ajouté des feux d'artifice pour fêter la fête. Ils sont venus, commencé à nous encercler et tout ça. Et nous, on n'aimait pas ça, du coup on a commencé à les caillasser partout. Bouteilles, tout ce qu'il y avait par la main, on caillassait.
Mais pour David, venu lui aussi profiter de cette atmosphère estivale, ce sont uniquement certains jeunes qui ont cherché à en découdre avec les policiers.
Et à chaque fois que des véhicules passaient, ils étaient pris pour cible. Et beaucoup de policiers qui se sont fait tirer dessus à coups de feu d'artifice.
Pendant près de 2 heures, Kenzo et ses amis se sont eux aussi retrouvés coincés au milieu des jets de projectiles.
Pour moi, ça allait dans la centaine de projectiles, bouteilles jetées sur les voitures qui passaient. Et encore, j'ai pas tout vu. Hein. Bouteilles en verre, bouteilles de vin, flash. Tout ce qui est jetable en fait et qui peut casser et faire mal. Les forces de l'ordre, oui, ils ont rétorqué déjà on apprend des renforts parce que c'était un peu débordé quoi.
Les policiers sont finalement parvenus à ramener le calme vers 4h du matin.
Des règles sanitaires encore très strictes en Guyane, territoire voisin du Brésil, où le bilan vient de dépasser les 50 000 morts. Hier soir, Matignon a prévenu, il faudra reconfiner si la situation s'aggrave. Dès aujourd'hui, 17 soignants supplémentaires issus de la réserve sanitaire sont attendus sur place. Étienne, un habitant de Saint-Laurent-du-Maroni, est inquiet et trouve que les décisions prises ne sont pas les bonnes.
Notre famille nous manque parce que je suis avec ma conjointe et oui, ça fait un an qu'on n'a pas vu nos proches, donc bien sûr, on veut rentrer. Il y a un couvre-feu tous les soirs à 18h et après le week-end du samedi 15h au lundi matin 5h, pareil, couvre-feu. En gros, tu as le droit d'aller te contaminer et contaminer les autres la semaine pour bosser et le week-end pour ton petit plaisir et tes distractions, tu n'as plus le droit, quoi. On a fait marche arrière, on revient sur le truc, donc on reconfine tout doucement. Pour peut-être, effectivement, reconfiner pour de bon. Ça dérange tout le monde, mais s'il faut le faire, on le fera, bien sûr. Moins il y a de cas, mieux c'est. Et là, le problème, c'est que c'est exponentiel.
Et ce matin, l'Organisation mondiale de la santé fait état d'une progression record du nombre de cas d'infection, principalement en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. RMC, 8h09, 17 ans après la disparition d'Estelle Mouzin à Guermantes, en Seine-et-Marne. Des fouilles vont être menées à partir d'aujourd'hui. Cela va se passer dans les Ardennes, dans deux anciennes maisons où a vécu Michel Fourniret. Le tueur en série est mis en examen dans cette affaire où le corps de la fillette n'a jamais été retrouvé. Gladys Lafitte.
Les enquêteurs espèrent trouver des ossements, confie une source proche du dossier. Une vingtaine de gendarmes est mobilisée, des spécialistes en identification criminelle, des plongeurs, un archéologue et une dizaine de militaires de l'armée de terre rompus aux recherches d'armes cachées sur les terrains de guerre. Objectif creusé à plusieurs mètres de profondeur avec le plus grand soin. C'est d'abord la maison de la sœur décédée de Michel Fourniret qui va être fouillée à Ville-sur-Lume dans les Ardennes. Les enquêteurs sont convaincus qu'il s'y trouvait dans les jours suivant la disparition. Deuxième lieu, le château où il a vécu avec son ex-femme Monique Olivier à une dizaine de kilomètres. Deux de ses victimes y avaient été enterrées à 3 mètres de profondeur. En mars, Michel Fourniret avait reconnu avoir pris la vie de la fillette sans donner plus de détails quant à l'endroit où se trouve son corps, invoquant sa mémoire défaillante, indiquant tout de même qu'il n'était pas improbable qu'il ait séquestré Estelle Mouzin à Ville-sur-Lume.
À retenir également dans l'actualité de ce lundi à 16h à Stain en Seine-Saint-Denis cet après-midi, le syndicat de police Alliance 93 organise un rassemblement devant une fresque qui fait polémique. Les visages d'Adama Traoré et George Floyd avec un écrit qui dénonce le racisme et les violences policières. C'est précisément cette inscription que dénoncent les fonctionnaires. Ils demandent qu'elle soit retirée. Un rapport de 600 pages désormais entre les mains de la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne. Les 150 citoyens de la Convention climat ont notamment voté pour la création d'un crime d'écocide par référendum qui sanctionnerait les grandes atteintes à l'environnement. Le chef de l'État s'exprimera sur ces propositions dans une semaine. Jérémy Trottin.
Emmanuel Macron a promis de reprendre ses mesures sans filtre. C'est à lui maintenant de les mettre en œuvre et non aux Français de s'exprimer une deuxième fois sur le sujet, confie un des modérateurs de la Convention. Les 110 km/h sur autoroute, l'interdiction de la vente des véhicules très polluants dès 2025, la mise en place d'une taxe sur l'alimentation ultra transformée, autant de propositions parfois radicales renvoyées donc vers l'exécutif par les 150 Français tirés au sort. Ils ont fait de la politique, estime un parlementaire LREM, qui aurait préféré que certaines mesures concrètes passent par la voie du référendum, car plus on approche de la fin du quinquennat, plus les oppositions se lèvent. Ce sera très difficile de faire voter les mesures les plus ambitieuses, précise ce même député. La balle est désormais dans le camp d'Emmanuel Macron qui s'exprimera sur ses propositions lundi prochain.
Elisabeth Borne
va s'exprimer déjà, tout à l'heure, 8h35, 9h sur RMC et BFM TV. Merci beaucoup Céline. Il est 8h12, le docteur Benjamin Davido est avec nous, médecin infectiologue que nous avons reçu plusieurs fois à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je vous sens inquiet. Un peu inquiet devant les images de tous ces... Il n'y a pas qu'à Paris, partout en France, dans les grandes villes et même les moins grandes, on a dansé, on a chanté les uns contre les autres hier à l'occasion de la fête de la musique.
Écoutez, oui, je suis alerte. On s'était vu la dernière fois et on avait dit que l'objectif du déconfinement, c'était de garder un R0 inférieur à 1, ce fameux taux de reproduction, c'est-à-dire la contamination d'un malade et du nombre d'individus qu'il va toucher. Et aujourd'hui, il y a au moins 3 régions en France.
Oui.
Sans compter les territoires outre-mer qui sont lourdement touchés avec des R0 qui ont dépassé le 1 et dans certaines régions à plus de 1,50 et c'est la définition de l'alerte sanitaire. Et donc il faut
Normandie, Occitanie.
Absolument, et donc il faut s'inquiéter de cela parce que aujourd'hui la vérité c'est que le virus continue à circuler et circule librement sur le territoire et donc il ne faut rien lâcher, qu'il faut des règles très strictes. Et je rappelle qu'on est en état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet jusqu'à nouvel ordre. Et que donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire malheureusement.
Qu'on ne peut pas faire et qu'on fait malheureusement. Vous auriez interdit la fête de la musique, vous auriez interdit ces rassemblements? C'est difficile.
Moi, je ne suis pas dans la politique.
Non, mais
moi,
d'accord. Mais Benjamin Davido,
citoyen républicain. Non,
Aurait-il fallu?
Moi, je pense que ces rassemblements,
des manifestations, vous avez vu des manifestations la semaine dernière.
Je pense qu'aujourd'hui, il manque des directives. Il y a beaucoup de notions qui sont contradictoires. On voit bien typiquement que les cinémas où le port du masque n'est pas obligatoire, alors que vous allez vous retrouver dans une salle confinée avec plusieurs personnes. La problématique, encore une fois, de ces rassemblements, quels qu'ils soient, y compris à l'extérieur, c'est que vous êtes en contact avec ce qu'on va appeler un deuxième ou un troisième cercle, à l'opposé du premier cercle, qui est votre entourage proche. C'est-à-dire que c'est extrêmement dur de remonter la source de contamination. Et aujourd'hui, le seul outil qui permettrait massivement de remonter par exemple un contact avec 30 000 personnes, c'est le contact tracing GPS, et ça c'est quelque chose qui est interdit en France pour des raisons soi-disant liberticides. Et moi je m'inquiète en effet à la veille
vous
de
vous dites soi-disant liberticide.
Oui, parce que je suis pas persuadé que ça soit liberticide la veille des vacances quand vous utilisez votre GPS et que vous mettez Waze. Tout à l'heure j'entendais la limitation à 110 km/h.
Oui.
Beaucoup de Français utilisent des limitateurs avec un GPS leur téléphone lorsqu'ils prennent la voiture. Je trouve qu'il y a, une sorte d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on va empêcher certaines personnes d'utiliser des logiciels qui pourraient avoir une intelligence artificielle qui dépasse ce qu'on est capable de faire, parce qu'il faut rappeler que cette maladie, pourquoi elle se transmet? C'est parce qu'elle est essentiellement silencieuse et que 7 fois sur 10, les gens sont porteurs asymptomatiques. Je rappelle que lorsqu'il y a un malade dans une enquête, il y a au moins un dépistage de 20 personnes dans l'entourage. Ça montre à quel point le virus il est silencieux. Et qu'aujourd'hui, on fait semblant de se donner les moyens pour y arriver. Alors certes, on a des tests, mais souvenez-vous, la question d'ailleurs au début de la crise, c'était est-ce que 700 000, ça suffit? Et il y avait des gens qui commentaient, qui disaient « Oh là là, c'est rien du tout, il nous en faut un milliard. » Et on voit bien aujourd'hui qu'on n'a même pas utilisé la moitié des stocks. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mesure de dépister les gens, puisque plus de la moitié sont asymptomatiques. C'est ça la vérité de cette crise sanitaire sans précédent.
Oui, mais alors ce virus circule, on est bien d'accord. Peut-être est-il moins... Je ne vais pas dire virulent, parce qu'un virus virulent, mais la charge virale est peut-être moins importante, non? Je ne sais pas.
Je ne crois pas que la charge virale soit moins importante.
Moins agressive? Peut-être que le virus est moins agressif.
Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette impression, très clairement. Parce que souvenez-vous, vous-même m'avez posé cette question de la deuxième vague. Et je vous avais dit, la deuxième vague, moi j'y crois pas. La deuxième vague au sens hospitalière. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le fameux cas index, il remonte à novembre. C'est-à-dire qu'il a fallu au moins 4 mois pour créer ce qu'on appelle un effet de population, où le virus s'est transmis et est arrivé au fameux 5% de formes sévères qui arrivent à l'hôpital. Aujourd'hui, les indicateurs, ils sont mauvais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là à se congratuler du fait qu'il y ait moins de malades en réanimation. Bien sûr que c'est une évidence qu'il y ait moins de malades en réanimation, puisqu'on est en train de dépister en ville. La problématique, c'est est-ce qu'on attend de voir ce R0 dépasser 1 en France, qu'aujourd'hui, il a 0,93, on est vraiment sur une ligne de crête, ou est-ce qu'on se donne les moyens, à la veille des vacances, encore une fois, on va...
Mais se donner les moyens, ça veut dire quoi? Se reconfiner?
Non, ça veut pas. Moi, je suis pas du tout pour le reconfinement. Le reconfinement, c'est la méthode lorsqu'on a plus de choix, lorsqu'on est au bout du bout et qu'on peut rien faire et que les lits, l'hôpital notamment, sont saturés. Aujourd'hui, économiquement, on ne peut plus reconfiner le pays.
Oui.
Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un discours qui est clair. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, que la partie n'est pas terminée, contrairement à ce qui a été dit. Et qu'il faut que les mesures barrières, les mesures de distanciation, le port du masque soient largement utilisées et qu'on dise quand est-ce qu'il est nécessaire.
Trop de laxisme aujourd'hui.
Encore une fois, je pense que le discours sanitaire, il ne faut pas l'opposer au discours politique.
Oui.
Et je pense que c'est là-dessus où on a du mal à accorder les violons. Et très clairement, moi je ne comprends pas Comment est-ce qu'on peut autoriser d'aller au cinéma sans masque dans une salle confinée, alors même qu'il y a un mois, on disait, oh là là, on va déconfiner, mais c'est criminel. Et là, maintenant, on va aller dans les salles de cinéma sans masque. Il y a quelque chose qui n'est pas logique, alors qu'on a ces outils, ces éléments pour se protéger. À partir du moment où on applique ces éléments de protection, encore une fois, au mois de juillet, au mois d'août, sur la plage à Biarritz, je suis pas sûr que les gens vont se faire des PCR dans les trous de nez. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis quand vous allez dépasser ces limites des régions aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous allez changer d'agence régionale de santé, les fameuses ARS. Et que ces ARS, elles ont du mal à communiquer entre elles lorsque vous n'êtes plus dans le même département. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait cette limite artificielle des 100 km. Et que donc la transmission des informations pour faire des enquêtes pour remonter va être extrêmement dure. Ça veut pas dire, je suis quelqu'un de très optimiste, ça veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Mais ça veut dire qu'il faut le dire, ça. Il faut juste avoir le courage de dire que c'est compliqué, que c'est pas terminé.
Et ce que vous dites, le virus était peut-être là en France dès le mois d'août ou le mois de septembre dernier. Il a mis 4-5 mois avant d'envahir finalement notre sphère publique. Vous dites là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, il peut rester 3-4 mois comme ça. Et puis, octobre, novembre, on peut le retrouver aussi fort que ce qu'on a vécu.
C'est absolument ça, Jean-Jacques. Et on peut même rajouter que... En octobre, il va y avoir d'autant plus de complexité à identifier le Covid-19 qu'il y aura une circulation des autres virus saisonniers.
Oui.
Des virus du rhume, qu'on appelle les rhinovirus, les adénovirus, d'autres coronavirus, et que ça va créer aussi malheureusement un mouvement de panique. C'est-à-dire qu'on va devoir dépister un certain nombre de gens qui ont un rhume, qui ont la goutte au nez, et on va dire ah, c'est le rebond du coronavirus. Il faudra avoir ce réflexe d'ailleurs. Et là, pour le coup, on va avoir besoin des tests. Et c'est pour ça que si on commence aujourd'hui à relâcher les mesures et à dire c'est terminé, le message, il est extrêmement névrosé parce qu'on ne sera pas en mesure d'appliquer cette politique de rigueur qu'il faut appliquer au moins jusqu'à la fin de l'année.
Bon, et ce que nous vivons en France, eh bien l'Allemagne le vit, la Suisse le vit et d'autres pays, les Pays-Bas sont en train de le vivre. Merci beaucoup Benjamin Davidot.
C'est un plaisir.
Merci d'être venu nous voir. C'est un plaisir d'avoir vos explications, évidemment. Et le rappel qu'il faut quand même toujours être vigilant. Il est quelle heure? Il est 8h19.
On va parler des salaires des soignants. Vous savez qu'on leur a promis des augmentations. Eh bien, elles pourraient intervenir dès le mois prochain. On en parle dans un instant avec Frédéric Simotel.
RMC. RMC, 6h-9h.
Bourg en direct. Il est 8h24. Merci d'être avec nous. Alors, le fameux Ségur de la santé.
Oui.
Alors, moi, j'ai envie de savoir où on en est, parce que ça approche, là, maintenant, hein. Où on en est des fameuses augmentations de salaire du personnel soignant, les infirmiers, les infirmières. Frédéric Simotel, alors.
Alors, on n'a pas encore beaucoup de chiffres, mais on sait que ça avance. En tout cas, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit qu'il fallait aller vite et fort. Et donc, visiblement, c'est ce qui va se passer pour les salaires, ce qui est en train de se passer pour les salaires des personnels médicaux. Donc, c'est un projet qui est discuté entre Nicole Notat, qui est la coordinatrice du Ségur de la Santé, et les syndicats. Et donc, il y a un premier projet qui leur a été présenté en fin de semaine dernière, un projet d'accord autour de la revalorisation des salaires, et ça pourrait être fait dès le 1er juillet 2020.
300 euros dès le 1er juillet prochain.
Dès le 1er juillet prochain. On pourrait déjà voir une revalorisation des salaires. Alors, 1 million d'agents sont concernés, de la fonction...
300 euros, c'est acquis ou pas de plus par mois?
C'est ce qu'aimeraient les syndicats. Parce qu'ils aimeraient que ce soit aligné. Pour eux, c'est le niveau. On est pour les infirmières, les aides-soignants, on est à 300 euros de moins que la moyenne européenne.
Bon. Et donc, s'aligne sur la moyenne européenne.
Ils voudraient qu'on s'aligne.
300 euros.
Voilà.
On veut
300 euros pour les aides-soignants. Ouais. Et tout ça, alors pour l'instant, on ne parle pas des médecins. On parle encore toujours que des personnels soignants, tout le personnel médico-technique.
Bon, donc ça avance correctement.
Ça avance correctement. Et puis, on prévoit aussi de revoir un peu un chantier. Alors ça, c'est pour les salaires, 1er janvier 2020. Et on prévoit aussi pour le 1er juillet 2020, pardon. Et on prévoit aussi pour le 1er janvier 2021, une rénovation sur le chantier des primes. Parce que là, les primes, c'est un peu le bazar. Il y a les primes de nuit, les primes des heures supplémentaires. Donc là, il faut un peu revoir tout ça. Il y a plus d'une centaine de primes quand même pour tout ce personnel. Donc il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça.
Oui, revalorisation des premières heures supplémentaires, des journées de remplacement.
Des journées de remplacement, parce qu'on veut moins d'avoir recours à l'intérim. Et puis derrière, il y a des choses. Hein. Fin de la notation dans la fonction publique, plutôt une évaluation annuelle. Création d'un bonus individuel versé une fois par an. Et revalorisation de la prime d'intéressement collectif.
Le bonus individuel.
C'est du mérite.
C'est une prime en mérite, déguisée.
En tout cas, on va voir au 1er janvier, au 1er juillet 2020, ce qui va être annoncé.
D'accord. Merci Frédéric. 8h27, mais suivez bien RMC parce que je vais recevoir très vite Olivier Véran. 8h27. Merci d'être avec nous. Elisabeth Borne. We'll be right back.
et ministre, vous le savez, des Transports, de la Transition écologique et solidaire. Elisabeth Borne est mon invitée sur RMC et BFM TV. Merci d'être resté avec nous ce matin, nous avoir suivis. Naïs Castagna et Quentin Vinet, toutes les équipes qui sont avec nous le matin, 32-16, notre lien. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Merci, 8h27.
RMC, Bourdin Direct. RMC, Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Notre invitée Elisabeth Borne, bonjour.
Bonjour.
Ministre des Transports, de la Transition écologique et solidaire. Alors, d'abord, avant d'entrer dans le rapport remis par la Convention citoyenne sur le climat, je voudrais simplement votre réaction sur ce que on a vu à Paris, en province, sur les quais, les places, dans les jardins, musique, danse, la fête. Le coronavirus est-il oublié ? Pas de distanciation sociale ?
Écoutez, moi, je comprends que après des semaines de confinement, les Français aient envie de revenir à une vie normale. Mais il ne faut pas oublier que le virus continue à circuler, qu'il est toujours présent. Je pense que c'est important que les Français qui ont montré qu'ils étaient très responsables pendant le confinement,
Là, on n'était plus responsable, si je comprends bien. Il est devenu irresponsable.
Je n'ai pas dit ça. Je dis que, effectivement, tout le monde a envie de faire la fête. Et en même temps, si on veut que ça se passe bien, si on ne veut pas avoir une deuxième vague, il faut continuer à être attentif, à retrouver toutes nos libertés, mais en même temps, en faisant attention à respecter les distances, les gestes barrières.
Masque obligatoire dans les transports jusqu'à quand ? Elisabeth Borne.
Écoutez, le masque, il va rester obligatoire dans les 4 mois après la fin de l'état d'urgence. C'est ce que prévoit le projet de loi sur le sujet. Je pense que c'est important de garder le masque. Et finalement, on voit que ceux qui utilisent les transports en commun respectent le port du masque. Ils le portent bien. Et je crois que ça nous protège, ça les protège. Et ça me semble une bonne formule. Tant qu'on a un risque, tant qu'on a un virus qui circule, qu'on n'a pas de vaccin, qu'on n'a pas de traitement.
Donc, pour l'instant, on porte le masque dans les transports tant qu'on n'a pas de vaccin.
Si le virus disparaît, ça sera formidable. Mais si le virus est là, qu'il n'y a pas de vaccin, qu'il n'y a pas de traitement, je pense que c'est bien de continuer à porter le masque.
Bien. Elisabeth Borne, municipale dimanche. On vous a déjà posé la question, mais je vous la repose. Si vous votiez à Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Metz, est-ce que vous voteriez Europe Écologie Les Verts ?
Alors, vous savez qu'à Strasbourg, il y a un candidat soutenu par La République En Marche. Donc, je voterai pour ce candidat.
Et ailleurs ?
Enfin, on va pas faire la carte.
Non,
de
je fais pas la carte.
On
mais
va pas faire la carte.
Je fais pas la carte, Elisabeth Borne. Non, mais je vous dis parce qu'il y a une ambiguïté. Mm-hmm. Non, il y a pas une ambiguïté.
Alors, je pense que nos candidats, ils défendent l'écologie partout et ils le font avec ou sans Europe Écologie Les Verts.
Mais quand il y a des candidats écologistes, vous ne votez pas pour le candidat écologiste.
L'écologie, c'est pas le monopole d'un parti, voyez. Je pense que le temps où on pouvait penser ça est révolu. L'écologie, c'est l'affaire de tout le monde. Si on veut mener la transition écologique, ça veut dire que tout le monde doit s'emparer de ce sujet. Et c'est ce que je constate à l'occasion des municipales. En tout cas, je peux vous dire que tous les candidats soutenus par La République En Marche ont à cœur de porter un projet de transformation écologique des villes.
Même lorsqu'il y a des alliances avec les Républicains qui ne défendent pas particulièrement l'écologie.
Je pense qu'on a veillé systématiquement à ce que les projets prennent en compte les enjeux majeurs de la transition écologique. Enfin, moi, je vous dis que l'écologie, c'est pas...
Ces accords ne vous gênent pas.
Je dis que l'écologie, c'est pas le monopole d'un parti. Et puis, sur ces questions d'alliance, posez aussi la question à M. Julien Bayou de savoir s'il a voulu des alliances avec La République En Marche.
Bien, Elisabeth Borne, qu'a voulu Emmanuel Macron en créant cette convention citoyenne sur le climat ? Que voulait-il faire ?
Cette convention citoyenne, je pense que c'est quelque chose de très important. Le président de la République l'a décidé au lendemain de la crise des Gilets jaunes pour répondre à 2 attentes très fortes qui s'étaient exprimées dans le grand débat national de plus de démocratie. Les Français, ils veulent non seulement voter tous les 5 ans, mais ils veulent aussi participer à l'élaboration des mesures qui vont s'appliquer à eux. Donc c'est plus de démocratie et c'est plus d'écologie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un très grand succès.
Plus de démocratie, plus d'écologie. Donc 150 citoyens ont été tirés au sort. Ces citoyens ont travaillé 9 mois avec l'objectif de proposer des mesures réduisant d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre avant 10 ans.
et ce, dans une logique de justice sociale. C'est bien résumé.
Je vous confirme que c'est bien la demande très précise qui leur a été faite.
Oui.
Et moi, je voudrais vraiment souligner...
Le texte final a été adopté hier.
Absolument. J'étais hier pour recevoir les propositions de la Convention. C'était très émouvant parce que, vous savez, c'est pas banal d'avoir 150 citoyens à l'image de notre pays qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 9 mois pour répondre à cette question. Il y a eu des mouvements de grève pendant cette période. Ils ont subi, comme nous tous, une crise sanitaire sans précédent. Et ils ont été au bout de l'exercice. C'est important parce qu'au départ, il y avait beaucoup de scepticisme. Vous savez, il y avait des gens qui nous disaient « Mais le sujet est beaucoup trop compliqué, ils n'y arriveront pas, ou bien les mesures, on les connaît déjà. » Ils ont été au bout de la démarche. Ils ont fait des propositions très globales.
Nous allons, vraiment, je pense qu'on nous peut allons en détailler certaines, Elisabeth Borne. D'abord, que demande-t-il ? Introduction dans le droit pénal français du crime d'écocide. C'est quoi le crime d'écocide ? Il s'agit de réprimer un crime contre l'environnement. Un écocide est une action ayant causé un dommage écologique grave. La Convention citoyenne souhaite l'organisation d'un référendum sur cette proposition. Vous aussi ? Est-ce que vous y êtes favorable ?
Alors, de façon générale, moi je suis évidemment favorable à mieux réprimer les atteintes à l'environnement. Ça ne sert à rien de voter des lois, de prendre des décrets, si ces textes ne sont pas respectés. Donc ça rejoint tout à fait, moi, ce que je porte avec Nicole Bézabé.
Donc vous êtes favorable au crime d'écocide ?
Je suis favorable à renforcer...
Enfin, favorable au crime.
Je suis
favorable à l'introduction dans le droit pénal du crime d'écocide.
Je suis favorable, très clairement, à renforcer les sanctions contre les atteintes à l'environnement, aussi à avoir des juges spécialisés. Et je vous dis, ça rejoint tout à fait ce qu'on porte
donc
avec Nicole
Bézabé. Donc introduction dans le droit pénal français ?
Sur la modalité...
Attendez, je vois déjà une interprétation différente. Je vous pose une question claire, et Elisabeth Borne. Introduction dans le droit pénal français du crime d'écocide, oui ou non ?
Je vous dis que moi, je suis favorable à tout ce qui peut permettre de mieux réprimer les atteintes à l'environnement. La proposition, on va la regarder attentivement. Et en plus, il demande un référendum.
Oui.
Ça permettra aussi aux Français de se prononcer.
Vous êtes favorable à un référendum, alors ?
De façon générale, je pense que...
Sur ce sujet.
Compte tenu de l'urgence écologique et climatique, on ne peut pas répondre aux défis par des petites mesures. Et je pense qu'il faut donc des mesures fortes. Et faut s'assurer qu'on a une adhésion des Français. Vous savez, moi j'entends souvent
donc,
des
référendum.
Gens...
Donc, référendum.
Je pense que le référendum, dans son principe...
Non, mais
c'est
attendez,
une bonne chose.
Ne tournez pas autour du pot, Elisabeth Borne. Vous me dites que c'est indispensable, cette notion de crime d'écocide. Ces citoyens proposent, dans le droit pénal français, l'introduction du crime d'écocide, proposent l'organisation d'un référendum. Vous me dites oui, on est d'accord, mais finalement, on ne me dit pas... Alors, oui ou non, le référendum ?
Alors, vous savez que ce n'est pas moi qui décide des référendums
vous
et que le président de la République...
Je ne sais pas ce que décidera le président de la République, mais vous êtes favorable ou pas à ce référendum ?
Moi, je suis favorable à un référendum sur des questions de principe, sur la réforme de la Constitution. Et
voilà,
je pense
aussi,
que c'est aussi important d'avoir...
Révision de la Constitution pour introduire dans la Constitution la préservation de la biodiversité, de l'environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique.
Je suis tout à fait favorable à introduire, à renforcer notre Constitution sur ces enjeux climatiques, sur la prise en compte de la biodiversité. On peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'assez abstrait. En réalité, c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire qu'ensuite toutes les lois qui seront votées devront respecter ces obligations de prise en compte des enjeux environnementaux.
Alors, Elisabeth Borne, référendum sur ces deux sujets, quoi, si je comprends bien, c'est ce que demandent les citoyens que vous encensez. C'est ce qu'ils demandent.
Mais je les encense pas, je leur rends hommage et je vous dis que moi je suis tout à fait favorable
à
inscrire dans la Constitution avoir un référendum sur ces sujets.
Ah voilà, vous êtes favorable à avoir un référendum sur ces sujets. Ben, je suis content que vous me le disiez, Elisabeth Borne. Quand ? Avant la fin, vite maintenant, avant la fin de l'année 2020, un référendum, s'il y a référendum.
Alors d'abord, je vous redis que c'est pas moi qui vais le décider,
mais
que ça s'organise pas.
Il faut que ça soit vite.
Enfin, je pense qu'on a effectivement besoin d'un certain temps pour organiser un référendum, mais l'idée, évidemment, c'est de le faire au plus vite.
Avant la fin de l'année.
Je ne suis pas une spécialiste de l'organisation des référendums. Il faut aussi, parce que vous savez, et je pense que les citoyens, ça leur tient aussi à cœur. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les citoyens, ils ont eu l'occasion d'échanger avec des scientifiques, avec des experts, et ils nous disent, on a pris une claque. On a réalisé que quand on vous parle d'urgence climatique, d'urgence écologique, ça veut dire que oui, la situation est très grave. Ils ont fait tout un chemin, et je pense que c'est important que les Français qui ont conscience de l'urgence climatique, hein, vous savez, quand on a, comme l'an dernier, une canicule, quand on a des agriculteurs qui subissent des sécheresses, puis ensuite des pluies diluviennes, je pense que tout le monde a conscience qu'il y a un problème avec le climat. Mais là, ces citoyens, ils ont pu échanger, je vous dis, avec des experts et des scientifiques, et ils ont mesuré la gravité de la situation. Et je crois que c'est important que cette démarche, on prenne le temps de l'avoir avec tous les Français.
Alors, Elisabeth Borne, donc, il faut prendre le temps, mais organiser un référendum, vous me dites oui, et rapidement, peut-être avant la fin de l'année, nous verrons bien. Mais pourquoi pas ?
Absolument.
J'ai bien résumé ? Absolument.
Tout à fait.
Bon, d'accord. Donc, référendum, peut-être avant la fin de l'année. Bien. Regardons les mesures maintenant. Vitesse sur autoroute réduite à 110 km heure au lieu de 130. Vous êtes favorable à ça ?
Je vais répondre sur cette mesure, mais je pense que ce qui est important, c'est de voir que ces citoyens, dont je redis qu'ils sont à l'image de nous tous, ils portent le fait, avec lequel je suis totalement d'accord, que la transition écologique, ça suppose une transformation globale.
Oui.
Ça suppose d'agir dans toute notre économie, de transformer notre économie. Et puis, ça
On va le voir à travers les mesures d'ailleurs proposées par ces citoyens.
Et ça suppose aussi des changements de comportement individuels.
Voilà.
De passer à la réparation plutôt que de jeter.
Voilà.
De passer
Attendez, je vais entrer. Je commence avec les transports, avec l'automobile. Vitesse sur autoroute réduite à 110 km/h. Vous êtes favorable ou pas ?
Ce que je pense qu'il faut avoir en tête, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi les citoyens à qui on a demandé de travailler sur le climat viennent s'occuper de la vitesse sur les autoroutes ? Eh bien, si on baisse la vitesse, on réduit de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Dans le principe, du coup, c'est vrai que c'est une mesure efficace pour le climat. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a bien en tête aussi...
Est-ce que vous êtes favorable ou pas ?
La réaction...
Je vais vous poser 10 fois la question.
Mais Jean-Jacques Bourdin, je peux vous répondre. À titre personnel, oui. Mais voyez, moi, je ne prends pas tous les matins ma voiture pour faire 30 km aller-retour sur autoroute.
Elisabeth Borne, donc, si je vous demande pas, à titre personnel, vous me dites oui, j'y suis favorable.
Voilà, mais je pense que c'est important, sur des sujets comme ceux-là, de vérifier qu'il y a aussi une adhésion des Français. Et de ceux qui sont directement concernés, ce n'est pas mon cas, je ne vais pas au travail en prenant ma voiture pour aller en utilisant
alors, Elisabeth Borne, prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule propre, augmentation du bonus pour les véhicules peu polluants tout en renforçant très fortement les malus pour ceux qui polluent, indemnité kilométrique indexée sur les émissions de CO2 de la voiture, tout ça c'est pas mal comme mesure.
Alors, ils vont tout à fait dans le sens de ce que moi je porte depuis le début du quinquennat, d'aider les Français à se déplacer et de se déplacer en émettant moins de gaz à effet de serre. Il ne vous aura pas échappé qu'on a soutenu l'industrie automobile qui était en grande difficulté. On l'a fait en voulant réorienter massivement vers des véhicules électriques. Donc effectivement, il faut renforcer le bonus. C'est ce qu'on a fait. On va regarder si on peut aller plus loin sur la base des propositions de la convention.
Et les primes, tiens au passage, les primes à la conversion, ça fonctionne très très bien. C'est un énorme succès.
C'est un énorme succès. Je vous confirme qu'effectivement, ces primes qui permettent de changer de voiture, de passer d'une voiture ancienne qui donc consomme beaucoup d'essence ou de diesel à un véhicule de dernière génération qui émet moins de gaz à effet de serre, c'est effectivement un énorme succès. Le plan vélo est aussi un énorme succès. Celui qui permet de réparer un vélo, c'est un énorme succès avec 200 000 Français qui ont déjà pu faire réparer leur vélo. Et moi, j'espère bien qu'on en aura 1 million d'ici la fin de l'année.
Alors, fin des vols aériens intérieurs sur des trajets de moins de 4 heures quand des alternatives beaucoup moins polluantes existent. Je pense au train, évidemment. Alors là, à ce propos, je vois que Jean-Baptiste Djebbari annonce qu'il va prendre un arrêté pour empêcher que d'autres compagnies aériennes reprennent les lignes régionales d'Air France qui seraient contraintes de fermer.
Alors, si on réexplique, vous avez vu qu'on soutient Air France, parce qu'on n'allait pas laisser la compagnie faire faillite, mais qu'on a demandé à Air France d'accélérer sa transition écologique et de réduire drastiquement les vols sur les liaisons où justement il y a une alternative ferroviaire en moins de 2h30. Ben, si on demande ça à Air France, c'est pas pour qu'une compagnie low cost vienne mettre en place une liaison à la place d'Air France. Donc c'est bien pour ça qu'on veut éviter que d'autres compagnies ne reprennent la place laissée par Air France.
Un prix plancher pour les billets d'avion aussi. Alors, pour éviter que les compagnies low cost proposent des billets à 15 euros, par exemple,
moi, j'ai
ce qui
eu
est dommageable pour la transition écologique.
J'ai eu l'occasion de le dire, je trouve que c'est très choquant. Quand on vend des billets à 15 euros, il y en a même qui vous vendent des billets à 1 euro.
Oui.
C'est faire croire aux gens qu'il n'y a pas de coût écologique.
Alors un prix plancher, c'est une bonne idée.
Je pense que dans le principe, moi je suis favorable à cette mesure.
Prix plancher, l'Autriche d'ailleurs le fait. Hein.
Absolument.
L'Autriche le fait. Bien, il y a d'autres sujets. Réduction de la TVA sur les billets de train, de 10 à 5,5% aussi. Ça.
Là aussi, on voit bien l'intérêt de ce qui est proposé, c'est de dire qu'aujourd'hui, on vient de le dire, il y a des billets d'avion qui ne coûtent rien, donc ça n'est pas une bonne chose. Et rendre le train attractif, c'est vraiment ce pourquoi je me bats depuis le début du quinquennat, c'est tout à fait le sens de la réforme ferroviaire, de s'assurer aussi qu'on a des lignes ferroviaires qui sont en bon état et que ça permet aux Français de préférer le train. C'est d'autant plus important, vous savez, qu'aujourd'hui, la SNCF nous dit que les réservations, elles sont très basses pour l'été prochain. Et moi, je voudrais dire aux Français que le train, c'est un bon moyen de déplacement, que c'est un transport très sûr, qu'il y a beaucoup de précautions qui sont prises. Donc, n'hésitez pas à prendre le train.
Bon, Elisabeth Borne, à propos des aéroports, interdire la construction de nouveaux aéroports et l'extension de ceux existants. Difficile comme mesure, ça, non ? Interdire l'extension d'un aéroport.
Alors, c'est des mesures qui sont en cohérence avec ce qui est proposé. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, le sujet, c'est pas l'extension des aéroports. Hein. Le transport aérien, il est tombé à 3% de ce qu'il était l'an dernier. Aujourd'hui, on a dû remonter à 10%. Donc, je pense qu'il n'y a pas urgence à faire des extensions d'aéroports.
Oui, la privatisation d'aéroports de Paris, c'est abandonné ou ça va être repris?
Je pense que vous voyez que les circonstances se préparent.
Oui, pour l'instant, mais ça va être repris après.
Enfin, je pense que c'est pas le sujet des mois qui viennent.
Non, mais d'accord. Mais est-ce que ça va être repris?
Écoutez, au-delà de 2022, on verra.
Nous verrons bien. Bon, je vais pas entrer dans tous les détails, mais moi, j'avais envie de vous poser une question sur l'installation des entrepôts logistiques Amazon. Est-ce que vous êtes favorable à un moratoire?
Je pense que là aussi, c'est un sujet qui renvoie vraiment à nos choix de société. Vous savez, on a vu pendant le confinement qu'on a eu une forte poussée ce commerce en ligne. Ce commerce en ligne, il faut aussi avoir en tête qu'il participe à la dévitalisation de nos centres-villes, aux difficultés que le petit commerce peut rencontrer en centre-ville. Mais il y a des Français qui disent, écoutez, moi j'ai pas de commerce à proximité, j'en ai besoin. Donc c'est un débat de société qu'il faut avoir.
Mais vous êtes donc il faut avoir ce débat de société, pas de moratoire. Je vous dis ça parce qu'il y a des députés qui ont déposé des propositions de loi demandant le moratoire sur l'installation de ces entrepôts.
Ça renvoie à plusieurs sujets. D'abord celui du commerce en ligne.
Oui.
Est-ce que on peut plutôt faire ses courses dans les commerçants à proximité? Évidemment, moi je trouve que c'est mieux. On a aussi des Français qui nous disent, moi j'ai pas de commerce à proximité
de
chez moi.
Vous n'êtes pas trop favorable au moratoire.
Et puis, par ailleurs, dans l'installation de ces entrepôts, il y a une autre dimension qui est du reste aussi regardée par les 150 citoyens, c'est la bétonisation des surfaces agricoles et des espaces naturels. Et là, qu'il faille aussi lutter contre cette bétonisation, évidemment, j'y suis favorable.
Bon, changement obligatoire des chaudières au fioul ou à charbon d'ici 10 ans, contraindre propriétaires, occupants et bailleurs à rénover les logements, aide à la rénovation d'ailleurs, interdiction des terrasses chauffées.
Oui, je pense que c'est effectivement paradoxal de chauffer l'air.
Bon, vous dites oui. Que vont devenir toutes ces mesures-là?
Alors, le président de la République qui avait rencontré les 150 citoyens en janvier et qui les revoit lundi prochain aura l'occasion de répondre point par point.
Mais
l'esprit, c'est qu'on a des mesures. D'abord, qui propose des accélérations, d'accélérer la rénovation des bâtiments, d'accélérer les investissements dans le ferroviaire, d'accélérer sur les voitures électriques. Vous voyez bien que toutes ces propositions, elles ont vocation à alimenter le plan de relance sur lequel on est en train de travailler.
D'accord.
Ensuite, le président avait dit que si des propositions étaient abouties, en particulier, comme l'ont fait les citoyens, des rédactions, des textes rédigés. Alors ces propositions avaient vocation à être transmises au Parlement pour continuer le travail législatif ou à être soumises à référendum. Donc sur chacune des mesures, le président pourra leur répondre lundi prochain sur la suite qui va être donnée à ces propositions.
Donc il y a des mesures là qui vont être soumises au Parlement, adoptées ou pas adoptées, c'est ça ?
Il y a évidemment des mesures...
Je me mets à la place du citoyen pour que le citoyen comprenne bien.
Donc je vous confirme qu'il y a des mesures qui ont été proposées, qui vont être transmises au Parlement sans filtre, comme sans l'engagement filtre avait été pris, et qui vont évidemment être débattues au Parlement.
Est-ce qu'il est possible de prendre des décrets aussi pour faire appliquer certaines de ces mesures?
Il y a aussi des mesures qui relèvent du décret. Moi, je n'ai pas fait du chenillage cette nuit, mais je peux vous assurer qu'il y a des décrets, des mesures législatives, et qu'évidemment, on a à cœur, et on a, enfin, vous savez, moi j'ai échangé à plusieurs reprises avec les citoyens de la Convention. Évidemment, ils ont à cœur que tout ce travail qu'ils ont fourni ait bien une suite. Et je peux vous assurer que le président de la République et le gouvernement entendent bien cette attente.
Bien, dernière chose, est-ce que le déploiement de la 5G sera retardé?
Ce que je pense important, c'est que là aussi, on donne les éléments aux Français pour ne pas, enfin, qu'ils ne soient pas inquiets et qu'on ait bien les évaluations des impacts sur la santé et l'environnement de cette nouvelle technologie. Donc je pense que c'est bien, et c'est ce que j'ai eu l'occasion avec Olivier Véran d'exprimer au Premier ministre, c'est bien d'avoir les résultats de cette étude au moment où on démarrera.
Et vous avez dit oui, le Premier ministre vous a répondu.
Je n'ai pas encore la réponse.
Bien, merci Elisabeth Borne d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h55, RMC et BFM TV.